Alors aujourd'hui, nous parlons de la parole de l'Éternel à Zorobabel. Zacharie 4, verset 6, où il dit, « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Quelle parole. Déjà, c'est adressé à une personne, c'est dit dans le texte, à Zorobabel. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Justement, avec une telle phrase, un tel verset, qui est tellement cité, on peut perdre justement le sens. Il y a des phrases populaires, justement, qui perdent leur sens. Par exemple, fameuse phrase, « Merci de nous excuser pour la gêne occasionnée ». Nous avons entendu ça, je crois, c'était mercredi, jeudi, jusqu'à ce que ça perde un petit peu son sens, le sens premier. Bien aussi des choses pas aussi marrantes comme « Allez les bleus », enfin, plein de choses, en fait, qui perdent un peu leur sens. Mais avec l'écriture, mais ça peut être enfin dangereux, je dirais. Surtout si nous devenons tellement familiers avec un verset que nous commençons même à l'entendre différemment, tordre même le sens. Et ça rentre dans les cas comme un peu comme la paille et la poutre en Matthieu, où les gens ils utilisent ça pour dire bon, ce que Jésus voulait dire par cette image, n'enlève pas, ne t'occupe pas de la paille dans l'œil de quelqu'un d'autre quand tu as cette poutre. Les gens utilisent ça même pour dire, ne me juge pas, je veux faire ce que je veux faire. Et ce n'était pas du tout ça ce que Jésus voulait dire. Ou bien, le rendez à César. Je suis sûr que les gens utilisent cette phrase aujourd'hui, ne sachant même pas d'où il vient. Et voilà ce qui est le problème devant les yeux dans notre milieu, surtout. C'est vrai qu'une phrase comme ça ne serait pas citée forcément par les non-chrétiens, mais forcément par beaucoup dans l'Église. Et nous avons ce genre de verset qui risque justement de glisser même de son sens premier pour même dire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire donc? Le contexte nous révèle beaucoup. Et c'est une continuation, un enchaînement de ce que, avec ce que nous avons lu et étudié la semaine dernière. Chapitre 3 était pour Josué, le souverain sacrificateur, qui nous parlait de la purification de la nation. Cette nation appelée à reconstruire le temple de l'Éternel et de recommencer leur vie, leur cheminement en Dieu. Chapitre 4 est aussi spécifique. Cette fois-ci, c'est l'exhortation à Zorobabel, c'est même dans le texte. La parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Et lui, il est à la tête de cette même nation et de sa manière, il représente aussi ce peuple en les conduisant à reconstruire, à reprendre les travaux. Mais même dans cette petite analyse ou révision, nous avons l'ordre que Dieu fait des choses. D'abord, il y a cette purification, réconciliation avec lui. Et c'est ensuite qu'il nous appelle à l'action. Mais pas n'importe comment. C'est spécifique. Et c'est ce qu'il faut garder en tête avec ce verset. Il suit cet ordre. D'abord, la purification est venue sur le peuple et maintenant, il les appelle à aller au travail, mais par ses forces et par son esprit. C'est pour cela qu'il est utile pour nous d'abord de voir cette vision. Parce que, en fait, comme nous avons lu tout à l'heure, peut-être vous avez remarqué, notre verset, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ça, c'est l'interprétation d'une vision. Alors, sans la vision, c'est difficile à le comprendre réellement, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est là où je pense que cette verset explosif peut vraiment faire son travail en nous. Alors, regardons cette vision. Et prenons d'abord les premiers trois versets. L'ange qui me parlait revint, me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Alors, les éléments sont importants, surtout dans une forme d'écriture comme ça. Il n'y a rien qui est gaspillé. Tout est vraiment symbolique. Le chandelier et ses sept lampes, c'est la lampe que le Seigneur a demandé d'être construit et fabriqué pour le tabernacle. Donc, vous voyez un peu sa forme. Bon, il y en a des images même dans cette pièce, comme par exemple au-dessus de la tête de Jean. Donc, c'est un petit peu comme ça, ce qu'on appelle les menorahs, donc, où il y a donc, ces sept branches qui terminent donc, en des petites lampes. Le Seigneur a demandé que ça soit construit pour le tabernacle. C'est tout couvert d'or, et ce n'est pas pour rien. Ça devait brûler sans cesse, entretenu chaque jour par les prêtres, parce que c'était dans le lieu saint. Pas très saint, mais dans le lieu saint. Donc les prêtres peuvent entrer et les entretenir. Et ça, c'est un symbole très fort pour Israël. Dieu, dont sa présence remplissait le tabernacle, et leur lumière. Et deuxièmement, comme eux, ils avaient ça au milieu, ben si vous regardez un petit peu, vous vous rappelez de l'emplacement du tabernacle au sein de la nation, c'était pile au centre. Et ça aussi, c'est un rappel que cette nation était destinée à devenir une lumière pour les nations, par la lumière de Dieu. D'ailleurs, remarquez que cette même chandelier est aujourd'hui même le symbole de l'État d'Israël. Chose curieuse. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'ils ont reconstruit cette chandelier en or qui se tient, je l'ai vu de mes propres yeux, qui se tient dans le quartier juif de Jérusalem aujourd'hui. Alors, je ne pense pas que c'était exactement ce que nous avons aujourd'hui, ce que Zacharie a vu, bien sûr. C'était plus magnificent, certainement. Mais, selon Hébreux chapitre 9, ça nous enseigne que tous les ustensiles dans le temple trouvaient leur véritable sens accompli en Jésus-Christ. Comment ça? Ben justement, selon Jean 1, 4, nous apprenons que Jésus est la lumière des hommes. Et il a dit en Matthieu 5 que nous sommes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, c'est parce qu'il nous illumine. Jésus-Christ est l'accomplissement final de cette chandelier. Et puis les conduits, donc qui lient les oliviers avec le chandelier, il n'est pas un hasard que c'est tout à fait couvert d'or non plus. C'est de l'or pur. Je ne pense pas que ça soit couvert. J'imagine que c'était de l'or pur. C'est ce même symbolisme de la perfection, la pureté céleste. Et les chiffres 7, dans une telle vision apocryphique, ne sont pas non plus à mettre à côté. Ça parle de cette véritable perfection. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils extraient de l'huile pure de ces oliviers et les conduisent aux lampes pour être brûlées de façon particulière. C'est un miracle. C'est un miracle. Est-ce que ça peut exister même aujourd'hui avec toute notre technologie? Je n'ai jamais vu de mes yeux. Et c'est aussi spirituel. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas exister ici. Alors, il y a une pureté qui n'est pas terrestre, mais c'est aussi une image de la continuité de la flamme et de sa perfection. Mettons tous ensemble, et ce que nous avons, donc, c'est une image de ce chandelier approvisionné miraculeusement de l'huile d'olive pure qui vient donc pour allumer ces lampes pour que ça brûle parfaitement, continuellement. Et puis, après le chandelier, il y avait ces deux oliviers. Et heureusement, nous avons une belle explication là dans le texte, verset 11. « Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient ces deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qui signifie ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Il dit, « Ce sont les deux rois qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » C'est ici où Malachie, Zacharie et Apocalypse se rejoindre. Alors, nous n'allons pas trop parler de cela parce que nous avons déjà évoqué ce sujet mercredi. C'est sur le site, si vous voulez le consulter, c'est déjà là. Donc, et en quelques semaines, nous allons commencer Apocalypse et nous en parlerons plus tard aussi, quand nous arrivons à ce passage. Mais c'est important que le Seigneur parle de ça. Parce que déjà, lorsque nous parlons de la continuité des chandeliers, les menorahs dans le temple, on a vraiment dans le milieu une idée peut-être de Hanouka, cette fête des lumières. Or, ce n'est pas ça ce qui est évoqué. Et c'est grâce à ce qui était dit dans le texte qui nous aide. Il y a des passages dans la Bible qui en parlent, notamment Daniel, où Jésus aussi célèbre Hanouka en Jean 7. Mais non, ici, ce n'est pas ça. Heureusement, le Seigneur nous explique. Il dit qu'en fait, c'est deux rois. Deux rois qui tiennent devant lui, le Seigneur, sur toute la terre. Donc, ce n'est pas une fête, mais c'est deux personnes, deux hommes, pour être vraiment spécifique. Et réfléchissons un petit peu. Vous, les connaisseurs, les théologiens maintenant dans cette église, est-ce qu'il y avait deux hommes en Israël qui ont été rois pour représenter le peuple? Oui, il y en avait. Il y en avait d'abord en Exode 40:15, nous apprenons qu'il y a la première personne. Et c'est vraiment important qu'il soit la première personne. Exode 40, verset 15. Ou bien, recommençons verset 13. où ça devient plus clair. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi les descendants. Donc, c'est Aaron et ses fils. Autrement dit, c'est le souverain sacrificateur qui reçoit l'onction pour représenter le peuple devant l'Éternel. Premier homme. Et deuxième homme, ça a été révélé plus tard, en 1 Samuel 15. Alors déjà, ça vous donne un indice de qui c'était. En 1 Samuel 15. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple. » Deuxième homme qui reçoit l'onction, c'est le roi, parce que lui aussi, il représente le peuple. Et voyez comment ça marche merveilleusement avec nos deux chapitres en Zacharie. D'abord, nous avons parlé en chapitre 3 du souverain sacrificateur qui représente le peuple et qui est purifié. Aujourd'hui, nous parlons de Zorobabel, le gouverneur, qui est le descendant du roi. Alors, pas seulement ça, mais nous parlons donc d'un Israël restauré pour rebâtir le temple, pour préparer la venue du Messie. Et c'est à ceci que nous rappelons qu'en Hébreux 7 à 9, vous pouvez le lire à la maison, Jésus-Christ, il est à la fois le roi par le droit de naissance, il est le descendant de David, il est le roi des rois, il est aussi sacrificateur, souverain sacrificateur, qui a donné un sacrifice, qui a offert un sacrifice plus puissant que tous les autres. D'abord, il ne devait pas être purifié lui-même comme les autres, parce qu'il était déjà pur. Et son sacrifice était beaucoup plus puissant que tous les autres sacrifices qu'il offre, donc des animaux. Jésus a offert lui-même. Et puisqu'il est devenu un homme, ce n'est pas comme il ne pouvait pas comprendre nos faiblesses. Donc, il est le parfait souverain sacrificateur par la croix, là où il s'est donné lui-même pour nous. Nous avons raison donc de dire que Jésus est l'accomplissement final de cela, surtout en ce qui concerne l'Esprit. L'onction de l'huile, ça parle toujours de l'Esprit Saint qui descend sur le roi ou le prêtre. Et Jésus fut roi aussi d'esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit descendait sur lui sur une forme d'une colombe. Il était l'homme le plus rempli d'esprit qui n'ait jamais vivé. Il est le roi. Il est le souverain sacrificateur par sa croix. Alors, la vision, vous avez tous les éléments entre les mains, qu'est-ce que ça voulait dire donc à Zorobabel? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? Verset 4. Il me parlait. Que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et il me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations de grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Tout ça devait parler précisément à Zorobabel. Comment? Comme un encouragement, bien sûr. Pour l'encourager dans son travail. Parce qu'il était en train de faire pratiquement l'impossible, comme nous avons dit et redit, et que vous allez voir ces mercredis lorsque nous allons étudier le livre d'Esdras ensemble. Vous allez voir de près, justement, quels sont les obstacles. Qu'est-ce qu'il fallait donc pour cet homme? Il lui fallait un miracle. Et Dieu lui en donne un. C'est impossible de réaliser le projet que l'Éternel l'a appelé à faire sans l'intervention de Dieu. Zorobabel n'en pouvait plus. Mais le temple devait être bâti. Et il l'a été. Le temple, si le temple de Dieu est bâti, il sera par la force du Saint-Esprit qui coule en eux. Sur des accomplissements et pour cet accomplissement de cette œuvre, comme les conduits qui courent sur ces chandeliers. Tout autour d'eux, il y avait des ruines, il y avait la destruction qui devait sembler un petit peu comme une montagne de ruines sur une montagne. Mais tout ça sera aplani. Et ça va laisser la place pour que le temple soit construit, pour que les maisons soient construites et qu'il y ait un travail. Et comment? De façon à ce que les gens y crient « grâce, grâce » et loueront Dieu. Parce qu'il serait tellement évident que ça ne vient pas des efforts humains, même si les hommes ont travaillé, mais c'était Dieu qui travaillait au travers d'eux pour faire quelque chose de durable et remarquable. Ceux qui se plaignent des petits commencements, ceux qui se plaignent de la petitesse qu'ils voyaient et de tous les travaux autour d'eux, allaient être surpris le jour où ils voyaient Zorobabel pose la dernière pierre avec ses acclamations de grâce. Dieu l'a promis, et quand Zorobabel met cette dernière pierre, tout le monde sera obligé de le reconnaître. C'était la parole dont il avait besoin le plus, vous savez. C'était tellement important pour lui de connaître que Dieu ne l'a pas laissé. Dieu, en fait, il soutenait, il avait un plan et que ça allait se faire. Justement, est-ce qu'il y a des moments où, vous aussi, au fond de vous-même, quand les choses vont mal, est-ce que vous réagissez parfois en courant vers d'autres choses? De nos jours, ça peut être le cinéma, le chocolat, le plaisir, gourmandise, enfin, des achats, des vacances, des choses où il n'y a pas de mal dedans en soi. Mais lorsque nous avons ce besoin et nous ressentons ce besoin profond, ce n'est pas ça ce qu'il nous faut. En fait, ce qu'il nous faut, c'est d'être touché par Dieu. C'est que c'est sa parole nous instruit et nous remplisse. En fait, avec ces choses, cinéma, grandi, chocolat, enfin, ce sont vraiment des signes de consommation. On veut consommer, on veut prendre, on veut remplir quelque chose parce qu'on se sent mal. Et voyez, c'est ça le signe que nous avons besoin de quelque chose. Effectivement, nous avons besoin de quelque chose, mais ce n'est pas ces autres formes. En fait, ce dont nous avons besoin, c'est Dieu, parce que nous sommes au plus bas. Et c'est lui qui nous redressera. Bon, les autres choses, ce sont des choses qui sont neutres, enfin, au mieux. Et ce n'est pas ça le mal. Mais que nous soyons sages lorsque nous avons ces désirs, surtout dans les moments difficiles. On a besoin de Dieu et c'est ce qu'il fait ici dans le texte pour Zorobabel. Alors, il y a des applications pour nous, bien sûr. Spécifiquement, parce que nous aussi, nous travaillons vers l'établissement d'une église en plein Paris. Et mes chers frères et sœurs, si vous n'avez pas réalisé encore, c'est impossible. C'est impossible à nous. Et le mieux que nous le réalisons, le mieux pour nous, en fait. Ça, c'est pourquoi ça ne serait jamais fait par nos propres forces, par les plus belles programmes qui sortent des librairies chrétiennes, les plus belles idées des hommes, non plus, ni nos talents. La seule chance que nous avons pour que cette église soit réussite est déjà, elle a été établie par cette même chose. En fait, c'est par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est notre seule chance. Pas pour survivre, mais pour porter du fruit et devenir tout ce que Dieu veut. C'est par l'Esprit que cette montagne qui est devant nous sera aplanie. Et pas aplani avec beaucoup de sueur et de fatigue. Non, aplani avec des acclamations de grâce. Grâce. C'est l'Esprit qui fera ça. C'est par l'Esprit que nous ne mépriserons pas le jour de petites choses. Mais c'est par l'Esprit que nous verrons Dieu agir. Pour nous aussi, ce verset est un rappel pour tout ministère, pour tout projet, pour tout mariage, pour tout parent, pour tout témoin, que nous ne ferons jamais rien sans l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de son Esprit. Ça, c'est pourquoi Paul, il s'indignait et il était tellement surpris de voir que les livres en Galates a tourné vers autre chose. Il a dit en Galates 3, verset 3, comment ça se fait que vous qui avez commencé par l'Esprit, maintenant vous tournez vers la chair? À quoi ça sert? Est-ce que c'est donc en commençant par l'Esprit que nous allons maintenant descendre et commencer à travailler avec nos forces? Que Dieu nous en garde. Non, c'est par l'Esprit que nous avançons. En conclusion, nous avons vu la vision et surtout la parole de l'Éternel à Zorobabel, à une personne, mais je crois que cette application nous touche tous. Ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par l'Esprit. D'ailleurs, ce n'est pas anodin non plus que verset 1 commence avec un prophète réveillé. Regardez verset 1. L'ange qui me parlait revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. C'est parce qu'il se réveille pour voir comment on travaille. Il se réveille pour travailler et pour travailler selon l'Esprit. En fait, le Seigneur lui donne un réveille. Sachant que c'est par l'Esprit qui nous, qui voulons voir un réveil, nous devons aussi chercher sa face. Voulez-vous voir justement un réveil? Vous savez, les grands réveils qui ont embrasé cette terre ont toujours commencé avec quelques personnes, deux, trois individus connus par personne qui ont commencé à prier. Vous ne pouvez pas forcer la main de Dieu et vous ne le ferez jamais, mais vous pouvez vivre dans un état de réveil personnel. Comment ça? Ce n'est ni par la force. Vous ne pouvez pas faire par vous-même. Ce n'est pas par la puissance. Vous n'avez pas ce qu'il vous faut. C'est par l'Esprit de Dieu. Cherchez l'Esprit. Cherchez-le, priez le Seigneur qu'il vous donne de plus en plus de lui, de vous remplir pour son service, pour le remplir pour que vous ayez la victoire sur le péché, pour nous remplir, pour qu'il fasse l'œuvre qu'il veut faire pour l'établissement de cette Église. Amen.